Bonjour, comme un briquet court, c'est le nouveau magazine de reportage de France Inter, une nouvelle revue vivante et radiophonique des alternatives.
Au sommaire cette semaine, la carotte ou le béton, encore des maquisards bretons et un voyage dans les bas-fonds du Pirée au son du rébético.
Comme un bruit qui court, en direct du studio 611 à la maison de la radio, l'émission qui bidouille le son et chatouille le sens.
Du blé pour la population, mais pas du blé pour la famille Mullier. Hein.
Je vais vous dire, il n'y a pas de sentiment plus fort que le désespoir.
Il y a eu quand même des milliers qui ont été libérés à cause qu'ils étaient bretons, parce qu'on pensait qu'ils étaient nationalistes plutôt du côté allemand que du côté gaulliste. Ben oui, c'est ça, oui.
Trois histoires hors des clous que nous vous proposons ce samedi. Trois facettes du présent et trois rythmes pour marquer le temps. Une histoire qui passe mal, une histoire de présent et une histoire en musique. L'histoire qui passe mal, c'est d'abord Charlotte qui nous poursuit son enquête sur les cicatrices toujours à vif des mémoires de la guerre en Bretagne. Antoine, lui, suit l'histoire qui s'écrit aujourd'hui avec des habitants du Val d'Oise mobilisés contre un projet pharaonique de 80 hectares, un temple du shopping digne de Dubaï qui devrait ouvrir chez eux en 2020, pile poil là où s'est écrasé le Concorde en 2000. Enfin, nous écouterons l'histoire en musique, en Grèce, au pays du rébético, à la découverte de ces mélodies qui se chantent et se dansent en temps de crise depuis bientôt 100 ans. De la Grande Dépression à la crise financière, la Grèce chante son blues.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Retour en Bretagne, donc, pour ce dernier volet d'une série de reportages consacrée à la quasi-guerre civile qui a opposé miliciens autonomistes et résistants communistes pendant l'occupation. La Bretagne blanche contre la Bretagne rouge. Les partisans de l'indépendance d'une terre pure, catholique et celtique, contre les républicains laïcs et internationalistes. Deux visions, des valeurs diamétralement opposées et un héritage qui encombre aujourd'hui encore la mémoire du mouvement breton. La semaine dernière, nous étions à Garzonval, près de Plougonvert, où furent abattus 7 résistants FTP après avoir été affreusement torturés par les miliciens du Bézène-Pérotte, ces soldats bretons en uniforme de Waffen-SS qui avaient rallié la cause des nazis au nom de la Bretagne libre. Mais pourquoi remuer le passé, surtout quand il est douloureux? Pourquoi embêter les jeunes avec ses devoirs de mémoire, avec ses cérémonies du souvenir? Parce que la résistance, l'esprit de la résistance, de la lutte pour les droits et les acquis issus du CNR, c'est une flamme à entretenir. Et c'est donc tout cela qui est en jeu quand, par exemple, une municipalité veut rendre hommage à un musicien, ardent défenseur de la culture bretonne, certes, mais qui a pactisé avec l'ennemi sous l'occupation, en lui attribuant le nom d'une rue. C'était à Guingamp, récemment, et les anciens résistants, Thomas et Lyon en tête, s'y sont farouchement opposés. C'est pour revenir une dernière fois sur ces enjeux de mémoire que nous retournons au cœur des Côtes d'Armor, direction Plougonvert, tout d'abord, un petit bourg de 700 habitants, où le 15 juillet dernier, la mairie organisait une cérémonie à l'occasion de la sortie du livre « Plougonvert, Garzonval en mémoire » qui rassemble les témoignages des habitants qui ont vécu l'occupation.
Je vais retracer pour vous les faits qui ont précédé ce drame de la résistance en Bretagne.
Albert Torqueo.
Mort pour la France.
Pierre Maillard.
Mort pour la France.
Ils étaient encore tout chaud.
Marie Lebert.
Des balles qui sortaient de la nuque, là, quoi. Torturés de partout.
Garzonval.
Je vais vous dire, c'est pas ça qui va faire avancer notre pays. C'est les nouvelles générations. Et ça, on les délaisse beaucoup trop, au détriment de tous ces devoirs de mémoire.
Mais on peut s'occuper de l'orientation des jeunes et en même temps leur apprendre l'histoire.
Je vais vous dire, j'ai cette chance de pouvoir avoir l'occasion de voyager à travers le monde et je vois ce qui est fait. Et je pense qu'on est complètement à côté de la plaque dans ce pays.
Allez, bon courage. Merci, au revoir. Alors on vient de se faire interpeller par une dame qui nous a appelé par sa fenêtre pour dire que le devoir de mémoire, ça servait à rien et qu'au lieu de mettre de l'argent dans les devoirs de mémoire, on devrait mieux investir dans les jeunes. Alors on se rend à la mairie. Il y a déjà plein de voitures qui sont arrivées. Alors on va se dépêcher de rentrer.
Bonsoir tout le monde. Je vous remercie tous d'être venus ce soir pour la sortie du livre Plougon Vert, Garzobal en mémoire. C'est à peu près 2 ans de travail. Donc toute la somme de témoignages qu'on avait reçus, on a décidé de faire un livre.
On avait envie de dire il faut que les enfants, il faut que les jeunes soient aussi conscients de ce qu'a été la résistance, de ce qu'a été la résistance au nazisme et que c'est un combat qui est encore actuel, qui est aussi un travail de mémoire.
Geise hoazen tual dimen parus plougon vert.
Voilà que sur la commune de Plougon Vert,
orim brasoa comete panju devien Hitler.
Un grand crime a été commis par les vendus d'Hitler.
Jean-Louis Corbel.
Mort de la France.
Pierre Sécardin.
Mort de la France.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
André Magouarou. Je suis né à Saint-Denis et mes parents, ils sont d'origine de Plougon Vert. Et j'ai un oncle qui a été raflé à Logivy, dénoncé certainement, quoi. Ils étaient 17, je crois, ou 17 ou 18, là. Et ils étaient marqués NN, c'est-à-dire Nacht und Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard. Ils devaient disparaître.
Il y avait beaucoup des gens qui dénonçaient
Il y en avait quelques-uns, mais il suffisait d'un seul, quoi, comme ça s'est passé à Plougon Vert aussi, pour dénoncer beaucoup de monde. C'était sans doute des gens de la Bézène Perrotte.
En uniforme allemand, mais ils parlaient breton comme...
Les bretons, oui, oui. C'est eux, en général, c'est eux qui dénonçaient les gens, quoi. Puis surtout les tortures qu'il y a eu. Si vous voulez, j'ai vu la même chose après, en Algérie. C'est surtout les harkis qui interrogeaient leurs compatriotes, quoi. Et je me souviens d'un truc, puisque j'ai un oncle qui a été prisonnier. Et Hitler, il avait dans sa garde personnelle des gens de la Bézène Perrotte, là. Et les collaborateurs avaient,
de la Bézène Perrotte,
avaient demandé à l'entourage d'Hitler, et même à Hitler lui-même, en échange de leur service pour le Reich, de libérer quelques Bretons. Et il y a eu une libération de prisonniers bretons à ce moment-là, et mon oncle se trouvait parmi ceux-là.
Mais votre oncle, c'était un nationaliste breton ou pas du tout?
Pas du tout, pas du tout. Il s'est retrouvé comme ça, mais il y a eu quand même des milliers qui ont été libérés à cause qu'ils étaient bretons, parce qu'on pensait qu'ils étaient nationalistes et qu'ils étaient plutôt du côté allemand que du côté gaulliste. Ben oui, c'est ça, oui.
Bézène Perrotte, eux, c'était...
D'extrême droite, surtout catho, quoi. Hein. Et ici, c'était beaucoup anti-catho, quoi.
Les générations qui passeront en ces lieux doivent connaître l'histoire et le prix qu'il a fallu consentir pour vivre libre et en paix, dans la justice, la démocratie, la solidarité et le respect de tous les peuples.
Thomas Hélion, président départemental de l'Association des anciens combattants de la Résistance et des membres des antennes bretonnes de la Libre Pensée,
Ouest France,
ont été reçus hier par Philippe Le Goff, maire de Guingamp.
21 mai 2014.
Il voit dans ce projet de baptiser une rue au nom du musicien Polygue Monjarret une offense à l'histoire. En effet, les élus guingampais ont souhaité mettre à l'honneur un homme, ardent défenseur de la musique bretonne, fondateur des assemblées de Sonore et Bagadou de Bretagne. Ses détracteurs, quant à eux, pointent la face occultée d'un homme accusé d'avoir pactisé avec l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale, même s'il a été acquitté en 1944, faute de preuves.
Alors là, je viens d'arriver à Penvénan. Le bruit qu'on entend, là, c'est un monsieur qui coupe sa haie. Penvénan, c'est dans les Côtes d'Armor, au cœur du Trégor. C'est un petit bourg de 2500 habitants, au bord de la mer. Et j'ai rencontré M. Thomas Hélion, qui est un ancien résistant, décoré de la Légion d'honneur et qui lui a bien connu les musiciens du Bézin de Perrotte.
Allez, allez. Petit. Ah, nom de pipe. Veux-tu venir ici?
Bonjour, monsieur.
Allez, allez.
Pardon. Oups.
C'est l'entrée des artistes par ici.
Bonjour, madame. Comment vous vous appelez?
Thomas Hillion. Moi, je suis natif de Ploiegrette, là. Je suis venu ici comme facteur. J'ai fait 8 ans la tournée de Bugueres et 4 ans la tournée du Port-Blanc. J'étais responsable syndical et il y a 33 ans que je suis en retraite. Hein. Je suis bientôt 89 ans. Hein.
Et vous êtes rentré dans la résistance à quel âge, vous?
Moi, je suis rentré début 42. J'avais 17 ans moins un mois. Moi, j'ai coupé surtout les fils téléphoniques. Coupé aussi le cap qui va de Berlin à Paris, qui passait le long de la route nationale, à côté de Méchamp. On a fait ça la nuit avec un copain. Ils ont mis 3-4 jours pour le trouver. Ils ont allé en haut, ils allaient en bas. C'était... Ils ne trouvaient pas. Hein. Ils ne pouvaient pas se communiquer. Et évidemment, si on n'avait pas eu la visite Perrotte, on aurait perdu la moitié moins de camarades.
Perrotte, bretonne.
Oui, la milice bretonne. C'est pour ça que moi, je me suis mis en colère quand les libre-penseurs m'ont téléphoné pour me demander si je voulais bien venir avec eux à Guingamp voir le maire. Et ils mettaient une rue pour une résistante et une rue de l'autre côté pour un collaborateur. Paul Monjarret.
Et alors, c'était qui ce Monjarret
C'était le fils d'un menuisier qui était place du centre à Guingamp. Je l'ai connu parce qu'il vendait les journaux, L'Heure Bretonne. L'Heure Bretonne, c'était un journal collaborateur qui était de la milice Perrotte.
Alors il voulait vous vendre L'Heure Bretonne et vous lui avez dit quoi?
Ben je lui ai dit que j'avais pas le temps de lire. Il m'a dit je suis dans la milice et on est bien organisé, je vous retrouverai. Si je suis en vie, c'est pas grâce à lui, quoi. Hein. Il m'aurait pris là, c'était fini, hein. Nous, on nous dit qu'on a tué des gens. On a tué que des collaborateurs. Mais moi, je leur dis, on n'a pas tué assez parce qu'ils redaient la tête. Non, mais sans blague, alors... c'est une honte de mettre un truc pareil. Parce que, en temps de guerre, un homme qui trahit son pays peut être condamné à mort. Hein. Enfin, il n'aura pas de rue.
Donc c'est Paul Monjarret qui n'aura pas de rue à...
Il n'aura pas de rue là-bas...
À Guingamp.
À Guingamp. La résistance n'est pas une cendre à conserver, mais une flamme à transmettre. Certes, nous nous posons la question, que reste-t-il de nos luttes? Que reste-t-il de notre programme du CNR? Quand le droit au travail, au logement, à la santé, ou même tout simplement le droit au respect de chacun disparaît toujours. Plus, ne laissez surtout pas revenir la bête immonde, gagner le droit de vivre dans la paix pour tous, et avec Victor Hugo, autre grand résistant dans un lointain passé, rappelez-vous que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Voilà, c'était Thomas Hillion, ancien résistant FTP, toujours sur la brèche, dans toutes les manifs et dans les salles de classe, pour défendre les acquis sociaux et rappeler les aspects oubliés de l'histoire. Concernant l'histoire de la milice Perrotte, je vous recommande le film de Vincent Jaglin, La découverte ou l'ignorance, histoire de mes fantômes bretons, qui sera présenté en première au rendez-vous de l'histoire à Blois le 10 octobre prochain.
C'est la larve d'un volcan qui se réveille. C'est la vague qui te balaye, c'est le vent. Un vent d'humanité, on veut la justice, pas la charité. Au nom du merveilleux de ses yeux écarquillés, au nom de la beauté de nos rêves éparpillés, c'est de l'amour, ouais de l'amour à revendre, à réduire un système en cendres. C'est une armée, c'est une légion, internationale et la pression. C'est plus haut que les frontières et les barbelés, c'est des mots pour marteler. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est vieux comme le feu, c'est la lutte comme un rempart à l'ennui. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, vis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, vis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, crie-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, sois-le. Et bien j'en suis. J'en suis. Eh bien j'en suis. Eh bien j'en suis. C'est la canaille, eh bien j'en suis.
Voilà, Gonesse, centre-ville, centre-village, dans le Val d'Oise. Code postal 95 500, 26 500 habitants. On est à 16 km au nord de Paris. un taux de chômage plutôt important ici à Gonesse et un projet immobilier Europa City qui est prévu pour l'horizon 2020. Un projet controversé, 230 000 m² de galeries marchandes, des salles de spectacle, un parc d'attractions, une piste de ski indoor qui va sortir de terre, qui va sortir justement de terre sur des terres agricoles. Et c'est ça qui pose question et qui fait polémique ici à Gonesse.
Ah ben ça, il y en a de moins en moins des terres agricoles. Alors.
Europa City, vous en pensez quoi vous?
À la place de Gonesse, hein? Ouais, ça me dérange pas moi. Partons à la retraite, c'est bon pour les placements.
Ah, pour les placements, pour l'immobilier.
Voilà.
Oui. Nous, c'est bien ici à Gonesse.
Avec la gare et tout ça, ça peut faire monter le prix de l'immobilier. Ouais. Et moi, je pars à la retraite, je vais aller vivre en Ardèche. Après, vous viendrez me voir en Ardèche. Hein? Si des fois, on monte un centre commercial.
Votre prénom?
Jean-Pierre.
Jean-Pierre.
Et mon nom, Monsieur Bonheur.
Et oui, il a raison, Jean-Pierre Bonheur. Ça fera toujours monter le prix de l'immobilier et du foncier. C'est toujours ça de prix, surtout pour les gros investisseurs. Et ça donnera du boulot. Ça tombe bien, il en manque dans le coin. En espérant que ça n'en détruise pas trop juste à côté. Mais bon, ça, on verra plus tard. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le climat, l'environnement. Mais bon, de toute façon, il y a déjà plus de saison, ma bonne dame. C'est la carotte ou le béton. La semaine dernière, Alternativa, le village des alternatives sociales et écologiques, s'installait sur le triangle de Gonesse dans le Val d'Oise, en Île-de-France, sur l'un des derniers espaces agricoles proches de Paris, où le groupe Auchan, par le biais de sa filiale immobilière, Imauchan, projette de construire Europa City, un gigantesque centre de commerce et de loisirs, 80 hectares de terre qui seront artificialisés. Mais alors la terre, elle appartient à qui ? À celui qui la travaille ou à celui qui la spécule ? Faudrait savoir. Volaille. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour monsieur.
Je fais un reportage sur le centre commercial qui va être construit, la Europa City. Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Bêtise.
Vous pensez quoi d'Europa City alors ?
Que du mal parce qu'on supprime des terres cultivables. Il y en a de moins en moins dans la région, si on en supprime encore plus. Le maire n'a pas voulu faire une déviation pour rejoindre directement le National 17 parce que soi-disant que ça bouffait des terres cultivables. Et puis maintenant, on met Europa City. Non, je suis contre. Et puis de toute façon, il n'y a déjà plus de commerce à Gonesse. Alors on rajoute encore un centre commercial. Bon, heureusement qu'on a encore notre boucher. Hein?
Alors, Alain, l'ennuyeux.
Alain, l'ennuyeux, oui.
Alors, c'est le triangle de Gonesse, ici. Hein.
Oui, nous sommes en plein, là. Nous sommes sur le chemin agricole qui dessert toutes les surfaces cultivables du triangle de Gonesse. Là, nous arrivons directement à l'emplacement où Auchan veut faire son complexe Europa City. Ici, nous avons la famille Play, père et fils, donc Dominique le papa et Robin le fils, qui sont là depuis 5 générations, qui exploitent ce territoire, tu vois, survolé par les avions en permanence, entre l'autoroute A1 d'un côté, le Bourget au sud et Roissy au nord.
Dominique et Robin, c'est vos terres ici, c'est vos plantations ?
Ben, c'est une partie, oui. Enfin, on est plusieurs agriculteurs qui exploitons. Comme on fait des échanges, je cultive des terres dont je ne suis pas locataire. Vous savez, on fait des échanges d'exploitation pour avoir des surfaces un petit peu plus grandes. Alors là, on est en train de faire le remembrement de toutes nos terres, parce que comme on a été expropriés...
Ah, vous avez déjà été expropriés ?
Oui, oui, oui. Alors déjà, on est au tribunal. Alors on est en appel, là, maintenant. On est en appel parce qu'ils se foutent de nous, quoi.
Ouais, c'est-à-dire, ils se foutent de vous ?
C'est-à-dire qu'ils nous donnent 5 euros pour, du mètre carré pour le propriétaire et 1 euro pour l'exploitant, d'indemnité d'éviction. À toutes les expropriations qu'on a eues avant, on touchait 1,50 euro.
Mais c'est juste cette question du montant de l'indemnité qui vous pose problème, Dominique ?
Ah non, non, moi, c'est la terre, moi. Ah non, non, c'est pas du tout l'indemnité, j'en ai rien à foutre de leur pognon. Moi, tout ce que je veux, c'est la terre. Ah bah, pour, déjà pour mettre mon fils dedans. Moi, je suis la 4e génération des Plaies, et lui, donc, ça sera la 5e. Pour l'instant, je lui ai pas cédé la ferme parce que je voudrais savoir comment on va être mangé, hein, qu'il puisse vivre.
Comment vous vous organisez alors pour essayer de sauver votre exploitation et ces terres cultivables ?
Il y a des gens comme M. l'ennuyeux, comme M. Loup, qui sont là pour nous défendre. Et heureusement qu'ils sont là pour nous défendre, parce que personne ne nous défend. Hein. Nos syndicats agricoles, on ne les voit pas. La Chambre d'agriculture, on n'en entend pas parler. Puis alors, mais c'est assez spécial, parce que nous, on est vraiment agriculteurs en ville. Hein. C'est-à-dire, ils ne nous considèrent pas comme des agriculteurs ici. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des Parisiens, mais pas loin. Hein. Parce que comme vous voyez, Paris est là. Le samedi ou dimanche, vous voyez Paris impeccable.
On est à 15 km à peu près, c'est ça ?
La Tour Eiffel, oui, à peu près 15 km. Mais alors, normalement, là encore, il y a du vent, ça va. Mais quand il n'y a pas de vent, il y a une chape. Mais c'est effrayant. Une chape noire au-dessus de Paris et vous ne voyez rien. Mais quand on est d'ici, on dit mais c'est pas possible de pouvoir vivre là-dedans, dans une chape toute noire. Alors si en plus on nous reconstruit une piste de ski, un machin, de la pollution, et vas-y que je t'en remets. Non bah attendez, il y a une piste de ski, un si beau bleu.
Si, non, il y a dans le complexe, il y a 500 boutiques de luxe, il y a 80 000 m² soi-disant d'espace culturel. En plus de ça, il y a un parc nautique, il y a un parc d'attractions pour les gamins, et cerise sur le gâteau, il y a une piste de ski. Alors, une piste de ski indoor, bien sûr.
Europa City, une architecture accessible, responsable, intégrée, fonctionnelle, internationale.
Alors tout ça, ils nous disent, oui, mais ça va être en énergie positive, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer. Alors on s'est amusé quand même avec des copains énergéticiens de calculer un peu ce que pourrait consommer une piste de ski si on fait du ski toute l'année. Bah, pour alimenter ça, il faut 4,8 gigawattheures. Et 4,8 gigawattheures, si on utilise par exemple des panneaux solaires pour produire cette énergie, dans des régions ensoleillées, c'est-à-dire pas vraiment ici à Gonesse, il nous faudrait 2400 hectares de panneaux solaires, c'est-à-dire 2,5 fois la surface agricole de tout cet espace du Triangle. C'est complètement fou.
Europa City est la plus innovante des destinations européennes et apporte une réponse inédite à l'évolution des modes de vie, articulant étroitement l'ensemble des dimensions de la politique urbaine pour renforcer leur caractère durable.
Et vous, Robin ?
C'est des terres qui ont été cultivées par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et je voudrais bien reprendre à Gonesse. J'aurais bien continué.
On est amoureux de ce pays. Hein. Enfin, on est né dedans, mes parents sont nés dedans, et on est vraiment... Et moi, je peux vous dire, quand je pars en vacances, au bout de 8 jours... J'ai qu'une hâte, c'est de revenir ici. Pourtant, c'est pas terrible, hein. Il y a du bruit, il y a tout. Mais je suis heureux quand je suis là.
Et vous êtes combien de paysans ou d'agriculteurs à travailler sur ces 700 hectares ?
Normalement, on doit être. On était en réunion hier, on était combien ? 7 ou 8 ? Alors, il ne reste plus que nous, des vrais Gonessiens. Alors, comment voulez-vous qu'on se batte tous les deux ? Alors, on a eu la manifestation. De samedi et dimanche,
faite Alternativa, par
Alternativa, qui était formidable. C'était vraiment extraordinaire. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens extraordinaires qui se sont occupés, qui s'occupent de tous ces problèmes. Parce que, et jamais de ma vie, j'aurais pensé ça il y a quoi, il y a 2-3 ans. Ouais. Alors, c'est des écologistes, c'est l'écologie, quoi. Mais de toute manière, tout le monde est un peu écologique. Il faut. Hein, c'est absolument... Non, mais vous rigolez, mais c'est tout à fait ça. Au début, tout le monde me dit « Oh, tu vas nous ramener des écolos, là, là, ils vont nous emmerder. » Eh bien, ça s'est bien passé, hein, les chasseurs et les écolos, c'était extraordinaire.
On chasse beaucoup par ici ?
Il y a beaucoup de gibier, ouais. Il y a du lièvre, pertreau, lapin. Enfin, le lapin, ça s'emmerde. Et les pigeons, malheureusement. Puis alors, bon, en plus, la terre est extraordinaire. Comme vous voyez, là, c'est du maïs. C'est du maïs qui n'est pas ni drainé, ni irrigué. Ce sont des terres extraordinaires. Pour moi, ce sont des terres extraordinaires. Comme tout le monde dit, la nature a mis des milliers d'années pour nous faire une terre aussi belle, hein, aussi belle, aussi productive. Et en un an de temps, ils vont vous bétonner tout ça. Puis après, c'est irréversible, c'est foutu. Hein. Ben, y a qu'à voir déjà à côté Citroën. Voilà, ben, Citroën, c'est là.
Et Saulnay qui est juste derrière. Ça,
voilà, ouais. Ben, il est là.
Enfin, il est derrière l'autoroute, là, de l'autre côté, c'est ça.
Il est juste à côté de là où veut faire Europa City. Alors, c'est une surface de 130 hectares, je crois, ou 150, qui se termine comme ça. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas, mais enfin, il y a quand même 130 hectares qui ne pourront plus revenir en agriculture. C'est foutu. Alors, il faut trouver quelque chose, mais trouver quoi? Tout est à louer et à vendre. Et en plus, maintenant, ils veulent nous faire un centre, là, au milieu des champs. Moi, je trouve ça aberrant. S'ils font des emplois pour faire le centre commercial, ils vont mettre en l'air le centre commercial de Paris Nord 1, parce que c'est à combien? C'est à 1 km, 2 km. Et celui d'Aéroville, qui ne marche pas bien non plus. Ah ben justement, ma femme y est allée hier, elle m'a dit « un désert ». Un désert. Alors, comment voulez-vous faire un autre centre? Mais il paraît que c'est incroyable, il n'y avait personne. Personne. Là, il tire la langue comme ça. Bon, ben c'est bien. Moi, je demande que ça. Hein. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Adieu, Aéroville. Vive l'agriculture.
Europa City, en avant pour la bio-urbanité.
Alain Lennuyeux, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette histoire d'Europa City et vous avez creusé pour comprendre ce qui se tramait, ce qui se préparait?
Je dirais que c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen de s'interroger sur les décisions que prennent les élus. Et c'est par le combat citoyen que nous gagnerons les maires des différentes communes autour commencent à se mobiliser. Par exemple, le Conseil général de Seine-Saint-Denis vient de voter à l'unanimité un vœu contre la construction d'Europa City. Donc ça, c'est un point important. Le maire d'Aulnay, la municipalité a changé, et le nouveau maire, Bruno Béchiza, s'est prononcé en conseil municipal contre ce projet. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que les élus du territoire, qu'ils soient de droite ou de gauche, commencent à ouvrir les yeux sur cette problématique, et on a bon espoir.
Alors là, vous avez des badges, c'est Triangle de Gonesse, du blé, oui. Pas du béton.
Du blé pour la population, mais pas du blé pour la famille Mullier. Hein.
Auchan, vivons mieux, vivons moins cher.
Si j'étais paysan, tu serais paysanne. J'ai trouvé ce mot sur mes pas. Tu germais dans mon sillon, graines de sésame, mon grain de peau, mon pain, ma foi. Je sème l'amour, sarc les fans, un sacré terroir, sol ingrat. Toi seul berce dans tes bras ma charrue et sa vieille lame.
Assez particulier, la patte d'oie de Gonesse, ici dans le Val d'Oise. Il y a les chasseurs, encore, dans ce coin de verdure, dans ces terres agricoles, vallonnées, arborées. Il y a les avions qui passent au-dessus de nous, de nos têtes, parce qu'on est en bout de piste de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On n'est pas loin aussi de celui du Bourget. Et il y a un méga projet, voilà, de construction d'un centre commercial, d'un centre de loisirs et commercial, Europa City, l'un des plus grands d'Europe, si ce n'est du monde, à venir, avec même des magnifiques pistes de ski indoor à l'intérieur. Donc peut-être pour concurrencer Dubaï, on pourra venir skier ici en plein été dans le Val d'Oise, dans ce centre de loisirs et commercial qui voudrait s'appeler Europa City. Et ces jours-ci se tient justement ici à Gonesse le festival Alternatiba pour défendre de nouvelles alternatives écologiques, sociales, en résistance à ce monde de la surconsommation, de la démesure, de toujours plus de projets imposés et inutiles qui servent surtout à faire tourner les grandes entreprises de construction ou les marques de la grande distribution. Donc là, en l'occurrence, c'est le groupe Auchan qui propose de construire Europa City. Alors, le festival, c'est dans un champ à la périphérie de Gonesse. Alors, il y a les groupes électrogènes qui tournent. Il y a eu un gros orage hier soir. Donc là, en ce dimanche matin, le terrain est un peu boueux. Il y a quelques stands qui ont plié sous la tempête. Et vous, vous venez de Notre-Dame-des-Landes ?
Julien Durand.
Julien Durand.
Porte-parole de la CIPA, association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport et paysans en retraite à Notre-Dame-des-Landes.
Et ici, donc, vous pouvez apprécier le plaisir d'être au bout des pistes d'un aéroport de Roissy. Ouais. Mais il faut les préserver, ces terres, quand même.
Bah, ça, il n'y a pas de doute pour nous. C'est d'excellentes terres agricoles avec même une profondeur de terre qui, ici, permet d'avoir des cultures même par année sèche. Donc, j'ai discuté avec le paysan, ils n'ont pas besoin d'arroser, donc déjà c'est déjà un bonus. À Notre-Dame, on n'a pas besoin d'arroser parce qu'on a de l'eau en permanence, mais ici, ça revient au même. Quoi. On n'est pas sur la même qualité de terre, mais finalement, le résultat final, on peut avoir une agriculture douce et qui est un petit peu à l'écart des inconvénients climatiques. Donc ça fait partie des terres qu'il faudrait quand même préserver, quoi, parce que le changement climatique, il est en route. Donc conservons les terres qui sont aujourd'hui dites humides pour que demain, ce sera les terres qui permettront d'avoir une production agricole en respectant la nature et en respectant les réserves d'eau.
Et donc là, il y a des débats en ce moment. Oui. Alors on est dimanche matin, il y a un débat sous une tente.
Est-ce que vous m'entendez ? Bon, bah, bonjour à tous, je pense qu'on peut commencer. C'est bon, comme ça, ok.
Comme un bruit qui court. Hashtag comme un bruit.
On a fusionné les trois débats climat, eau et agriculture, puisque le changement climatique a des conséquences sur l'ensemble de ces domaines. Alternative à Gonesse contre le changement climatique.
Alors Malika Perrault, cette année, c'est le premier festival Alternativa en Ile-de-France, ici, dans le triangle de Gonesse. Et vous, vous participez à l'organisation et au développement d'Alternativa ?
Oui, tout à fait. Alors moi, je fais partie des Amis de la Terre qui soutenons la dynamique Alternativa en règle générale. Donc Alternativa, c'est une dynamique qui est née à Bayonne en octobre dernier, où il y a eu le premier village des alternatives citoyennes, locales, concrètes, pour montrer en fait le monde dans lequel on veut vivre. Suite à ça, il y a eu un appel à démultiplier les alternativas, à avoir 100 000 alternativas en France et en Europe. Et on est dans la deuxième phase du processus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'alternativas qui sont déjà programmées et un grand nombre d'autres qui sont en préparation un peu partout dans les territoires et au-delà de la France. La troisième étape du processus, c'est la COP21. La conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique. La 21e de ces conférences va se tenir à Paris en 2015, en décembre 2015. Et lors de celle-ci, les dirigeants sont censés prendre des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Alors c'est assez emblématique qu'Alternativa se soit installée à Gonesse, soit venue ici à Gonesse en ce moment avec ce conflit sur la disparition de ces terres agricoles et donc ce COP21 qui va se tenir dans un an à deux pas d'ici, donc au Bourget.
Tout à fait, c'est emblématique parce qu'on a en France et partout dans le monde un certain nombre de luttes contre des grands projets inutiles qui sont, comme les Europa City, des aberrations en termes d'artificialisation des sols, de vouloir construire un centre commercial avec une piste de ski à l'intérieur, une plage tropicale, qui ont des conséquences en termes d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie, qui sont très importante et qui en plus participe du développement du réseau de transport qui est vraiment tourné vers ça, vers la surconsommation finalement. Et donc c'est très emblématique d'être ici à deux pas du Bourget où les dirigeants vont se réunir l'année prochaine parce que notre objectif est vraiment de leur rappeler que nous sommes en lutte contre un certain nombre de ces projets et que l'enjeu va être de changer le système et non pas de changer le climat.
Europa City, projet d'initiative et de financement privé, porté par le groupe Auchan, est piloté par une équipe pluridisciplinaire. La phase de co-construction trouve dans les réflexions du Conseil d'orientation scientifique et celle de l'ID Factory son origine. Chacun des ateliers concrétisant le principe d'innovation ouverte, hors des sentiers balisés.
François Dufour, alors vous êtes venu à Gonesse avant de repartir assez rapidement là pour traire les vaches, hein, c'est ça, en Basse-Normandie,
oui. Hein,
parce que vous êtes producteur.
De lait dans le Sud-Manche. Et puis bah, je suis aussi élu au Conseil régional et je suis aussi un militant de la première heure de la Confédération paysanne et je continue à suivre de près tous ces combats pour le droit à l'agriculture, pour le droit à l'alimentation.
Alors qu'est-ce qui se joue ici à Gonesse en ce moment ?
Mais il se joue le fait qu'une fois de plus, on voit naître un processus d'artificialisation des terres, de bétonnage dans des activités qui à chaque fois repoussent l'agriculture en dehors des villes, éloignent, je dirais, le monde rural du monde urbain et ne créent pas en termes d'emploi d'une part ce que l'agriculture peut créer, ne règle rien au problème du réchauffement climatique, si ce n'est que de l'aggraver, et fait en sorte, je dirais, de toujours considérer que l'agriculture n'est pas la priorité et le droit à l'alimentation n'est pas la priorité. Or, on a suffisamment maintenant d'exemples pour montrer que ce type de projet, les citoyens n'en veulent plus, tout au moins doivent inventer d'autres projets, et notamment ceux qui permettent de garder l'agriculture périurbaine, de garder la place de l'agriculture dans le pourtour des villes, voire de restituer, de relocaliser cette agriculture qui permet de consommer ce que l'on a besoin quand on a des millions de gens aujourd'hui qui vont chercher l'agriculture et l'alimentation à l'autre bout du monde.
Triangle de Gonesse, du blé, pas du béton.
Alors sur le barnum numéro 1 aura lieu un débat thématique sur l'emploi sur le secteur du nord de l'Île-de-France, sur notre secteur. Et sur le barnum numéro 3, c'est-à-dire celui qui est à l'extrémité tout au fond, à côté des toilettes sèches, c'est le débat sur les grands projets inutiles.
Et vous, c'est vivre ensemble à Aulnay-sous-Bois. Hein.
C'est un mouvement citoyen. Bon, c'est vrai que historiquement, on avait fait une liste pour les dernières municipales, mais on dépasse cette partie-là. Maintenant, on veut réfléchir sur la manière de vivre citoyennement autrement, en s'impliquant, en agissant, en réfléchissant sur des grands sujets de société, dont celui-ci.
On appelle Europa Blasi. Parce que c'est le bébé du député maire local. Donc c'est vrai que c'est une aberration totale ce projet, que ce soit écologique, commercial ou du point de vue emploi. On perd à tout, sur tous les tableaux. C'est ahurissant qu'un tel projet, à un an du grand sommet, ce qui va se tenir à deux pas d'ici, un projet aussi climaticide et tueur d'emploi va se tenir là, quoi. Et ça n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'on ne peut pas multiplier les centres commerciaux alors que l'argent des ménages ne se multiplie pas.
Alors Aulnay-sous-Bois a vécu la fermeture de PSA. L'année dernière. Hein.
Oui,
donc
oui.
Ça a fait un choc, j'imagine.
Oui. Ouais. Bah, bien sûr, ça fait un choc. Ça fait un choc et nous, on avait fait des propositions. Alors en attendant, au lieu d'enlever de la terre des champs, on ferait bien de remplir déjà un site qui n'existe plus en tant que terre agricole.
Mais vous avez déjà un beau centre commercial à Aulnay-sous-Bois.
Le prochain PSA à Aulnay-sous-Bois, et on peut l'éviter si aujourd'hui tous on se mobilise, le prochain PSA à Aulnay-sous-Bois, c'est au Paris Nord. Au Paris Nord, qui est le plus gros employeur à Aulnay-sous-Bois.
PSA ou PSE, plan de sauvegarde de l'emploi, donc plan social.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, Europa City qui va s'installer, mais en lisière d'au Paris Nord, va forcément détruire ce centre commercial. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut détruire les choses et détruire de la terre agricole. Enfin, ça n'a plus de sens.
Ça n'a plus de sens. Il faut savoir qu'à Aéroville, ça tourne pas rond, hein, Aéroville, actuellement. Alors, Aéroville, qui n'est pas très loin, qui est à 8 km d'ici.
Oui, sur la commune de Roissy-Tremblay.
Voilà. Bon, et c'est un centre qui est tout neuf. Et c'est un centre qui tourne mal.
Un centre commercial.
Un centre commercial très, très important. Et on veut en remettre encore une couche avec, en mettant un centre encore plus important. C'est du n'importe quoi.
Non, les personnes intéressées doivent...
Ma plume, mon arme, ma défense.
Les débats vont commencer.
Ma raison, mon ivresse, mon errance, ma contradiction, ma détresse, ma violence,
ma conviction, mon allégresse, ma résonance, mon intuition qui blesse, mon évidence, mon désir, mon mutation, ma transparence,
mon attention.
pulsion, mon insolence, mon attention, ma vigilance,
mon horizon, mon existence, mon affront, ma résistance,
ma rébellion, ma tristesse,
ma différence, ma conviction, mon allégresse, ma résonance,
mon intuition qui blesse, mon évidence,
ma plume, mon arme, ma défense.
Le Barnum numéro 2.
Ma liberté, ma légèreté, mon étrangeté, ce sillon que je trace entière, inachevé.
L'IAU, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, et c'est ni des gauchistes ni des écolos, s'inquiétait dernièrement d'une surproduction de surfaces commerciales et d'une bulle immobilière à venir dans le secteur. En attendant, la Commission nationale du débat public devrait se pencher rapidement sur le dossier d'aménagement du triangle de Gonesse. Affaire à suivre.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Allez, quelques secondes, quelques minutes encore d'été. Voyage dans la bande-son, c'est un rendez-vous qu'on vous proposera régulièrement dans Comme un bruit qui court. Allez voir où naissent les sons, d'où viennent les musiques qui chantent la vie des gens. Ces musiques dans des langues qu'on ne comprend pas toujours et qui pourtant vous parlent tant. Et première destination pour ce voyage dans la bande-son, la Grèce du Rebetiko. Oubliez vos clichés de Zorba le Grec, du Sirtaki. Le Rebetiko est plus profond et plus grave. C'est le blues du Pirée, né dans les bas quartiers, chez les Marlous des années 20. Et pour découvrir cette musique qui continue aujourd'hui, un rébétiste, musicien, Nicolas Syros, qui nous reçoit sur ses terres, un soir d'été, dans une petite auberge, dans une petite île dont j'ai promis de taire le nom. Voilà cette musique, le Rebetiko qui raconte la vie du peuple et qui nous est jouée ce soir tout simplement, tout naturellement. On a vraiment sur un coin de table, les touristes à côté ne sont rendus compte de rien encore pour l'instant, mais on accorde les bouzoukis. Alors Nicolas, avant que tout le monde soit accordé, explique-nous avec qui on est ce soir.
Tout ce qui est ici, c'est les amis, voilà, qui ont se trouvé les jouets des chansons des Rebetiko, les chansons du peuple, au début du siècle, le 20e siècle, qui ont exprimé le problème du peuple par les chansons. Ça, c'est des Rebetiko.
Δεν ησυχάζω ζω και στον ύπνο που κοιμάμαι. Εσένα απανάνα τ' αρχό το πουλα μου θυμάμαι.
Il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à table pendant qu'on jouait.
Aujourd'hui, qui est venu par hasard, c'est le monsieur Kostas Vergopoulos. C'est l'historien qui l'enfonce. Il peut dire quelque chose pour la Rebetiko aussi.
Kostas. Monsieur Kostas, vous voulez bien venir deux minutes à côté?
Deux minutes, il peut venir. Yes, come.
Avec votre petit verre d'ouzo.
Oui, oui. De tsipouro.
De tsipouro, c'est pas oui, pareil que l'ouzo.
Non, pas du tout. C'est plus fort. Sans anis, c'est important.
Alors, Nicolas Syros vous présente comme un historien du Rebetiko.
Oui, soi-disant.
Qu'est-ce que c'est que cette musique qui semble raconter la vie du peuple du Pirée, mais aussi du peuple grec,
oui, oui,
tout au long du XXe siècle?
Ce n'est pas seulement un récit, il y a un mystère dedans. Ça a commencé par le Pirée.
C'est-à-dire le grand port qui est à une vingtaine de kilomètres d'Athènes.
Oui, mais c'était le premier port de Grèce. Et il était peuplé de gens qui venaient de débarquer en provenance des îles, des migrations intérieures.
Migrations intérieures,
qui venaient s'installer sur le port du Pirée. Alors, bon, il y a des réminiscences de toutes sortes de musiques antérieures, On peut trouver de la musique byzantine, turque, ecclésiastique, persane, tout ce que vous voulez. Mais c'est une composition nouvelle. C'est une espèce musicale nouveau qui apparaît dans les quartiers populaires qui étaient situés plus loin que le centre.
Les faubourgs.
Les faubourgs, si vous voulez. Oui, c'est ça, le mot faubourg.
Et est-ce que ça vous va, vous, l'appellation qui est donnée de blues du Pirée?
Oui, oui, c'est parallèle. Du bas peuple, du bas fond. Je vais vous dire, il n'y a pas de sentiment plus fort que le désespoir, la frustration. Ce sentiment qui est le plus fort, il n'est pas perçu de tout le monde de la même manière. Il y en a qui, devant la frustration, se suicident. Il y en a qui s'amusent, ils chantent et dansent du désespoir, ils font chansons et dansent. Et c'est le cas des Grecs. Mais c'est aussi le cas du blues. Alors, en Grèce, cela mène ce genre de musique, de cette danse qui l'accompagne.
Mais par exemple, si on allait se promener dans le Pirée ce soir, ces chansons-là, les gens les connaissent?
Oui, oui, oui. Ils connaissent. Aujourd'hui encore. Et des gens d'Athènes vont toujours au Pirée pour écouter de la bonne musique. Jusqu'aujourd'hui.
Ça continue, c'est une histoire qui continue.
Θέλω καρδιά στα παλάτια, κλαμπών με έχουν κάνει. Μάρα να ζωνώ, σαν το κεράκι νιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μάρα να ζωνώ, σαν το κεράκι νιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς.
Il y a des plats du thème, l'amour, l'exil, la politique, la misère, la drogue, les prisons, les femmes aussi, l'amour, bien sûr. Il n'y a pas du folklore.
Ce n'est pas des musiques figées dans une salle de concert, c'est dans un bistrot.
Voilà.
Et ça, c'est quoi cette chanson? Vous la connaissez, cette chanson qui vient de commencer, là?
Ça parle beaucoup de narguilé qu'on fume en mettant du hache dedans, bien sûr.
Άλλωστε και στην ταβέρνα πάω. Δυο ποτήριες σε πετεινό κάθομαι κοπανά.
Énormément de chansons du début du Rebetiko qui parlent du hashish.
Ah oui, ouvertement. Et c'est la majorité. Ce n'est pas quelques exceptions.
Ah bon? Comment ça se fait?
Parce que c'est une chanson qui sort de ces milieux.
Et c'était les milieux louches, interlopes.
C'était très répandu parmi les milieux populaires à cette époque. Si on fait une chanson sur les haches, c'est une provocation parce que d'habitude, on pouvait le fumer secrètement, pas en l'exhibant.
Et alors, comment ça a été vu quelques années après? Parce que là, on est dans les années 20.
Composé avant 23.
Et alors, comment ça a été perçu après, par exemple, dans les après-guerre, dans les années 50, ces chansons qui chantaient ouvertement le hashish et les paradis artificiels?
Il a été au début très, très désapprouvé, condamné, ignoré, interdit. Mais petit à petit, elle a gagné un droit de cité, comme le blues. Et après, elle est devenue la musique unique, populaire partout. Alors, la bourgeoisie a aimé ce type de chanson pour se sentir encanaillée, parce qu'elle a ce besoin pervers de s'encanailler. Et finalement, avec elle, toute la société grecque.
Ça sent le soufre et c'est ça qu'on vient chercher.
Oui, voilà. Voilà, voilà.
Et comme ça, après, on peut reprendre la vie normale.
Oui, oui.
Comme ça. Si de rien n'était.
C'est ça. Dans la nuit, on s'amuse comme ça.
On s'amuse comme ça jusque très tard dans la nuit de la Grèce d'aujourd'hui, étranglée par le marché, le FMI et leurs plans d'austérité. Ce qui fait qu'il y a là des musiciens comme Nicolas Syros ont beaucoup, beaucoup de soirées musicales où la Grèce chante son blues.
C'est un micro, ça ?
Au fond de l'heure, le coin des bidouilleurs. Aujourd'hui, on va aller au Hacking Social Club Emmaüs. Direction la boutique solidaire, rue Serpollet, à Paris, dans le 20e arrondissement.
boutique solidaire Emmaüs, communauté de Paris, la boutique Serpollet, dans le 20e. Excusez-moi, je cherche Jack.
Voilà, enchanté Antoine.
C'est toi.
Ouais, c'est moi. Bah, je te présente puisque tu es là, Florence.
Bonjour.
Bonjour.
Mustapha, compagnon de Ubuntu. Et Agnès, qui est, elle, fait partie de l'association Les Amis des Mabuntus. C'est la boutique Serpollet. Et donc là, nous avons tout ce qui est vendu dans la boutique. Donc on commence par les meubles, là.
D'accord, là, tout ce qu'il y a de plus classique, une boutique Emmaüs classique.
Voilà, tout à fait classique.
Alors, des meubles, effectivement, des bibelots, des livres, des assiettes.
Et là, le stand des Mabuntus.
Ah, voilà.
Alors, il y a deux modèles d'ordinateurs qui sont en exposition, démonstration, avec ici des affichettes qui expliquent Mabuntus. C'est un système d'exploitation qui est sous Linux et qui permet de tout faire à la place d'un logiciel privé, propriétaire, et que Stallman dirait privateur.
Donc ça, c'est des ordi que vous avez reconditionnés, vous avez installé Linux, enfin Mabuntu, qui est votre système que vous développez,
voilà.
Et vous le remettez en vente. Donc là, il y en a un à 80€ qui fonctionne.
Voilà. Alors, quelle est la différence entre le Linux et Mabuntu? Eh bien, Mabuntu, c'est Linux avec tout ce qu'il y a besoin pour une famille qui vient à Emmaüs et qui a besoin d'un ordinateur. Et ce qui est formidable, c'est que grâce aux compagnons, le bouche à oreille commence à se faire. Si tu verras, tu pourras demander à Jacques. À Jacques, il avait un portable sous XP. Et à un moment, il nous dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On lui dit, sur XP, ça sera difficile. Mais par contre, on peut, puisque XP, ça n'existe plus, depuis le 8 avril, on te le met sous Mabuntu. Et il y en a, ils nous disent, oh, bah, c'est devenu une Rolls, là, on y va, confort, pratique et tout. Et puis il y en a un autre, parce qu'il avait un...
Alors on roule en Rolls maintenant, hein, dans voilà. Les boutiques Emmaüs. Hein.
Voilà, exactement.
Alors Jack, qui reconditionne les ordinateurs? C'est dans quels ateliers que vous faites ça?
Alors, si tu veux, on va y aller, parce que c'est dans le sous-sol.
Alors voilà, on passe entre les assiettes, les bibelots, un petit canapé en osier, une chaise pour enfants. Et là, on arrive au sous-sol, au Fab Lab et Mabuntu.
Alors là, je te présente Jaco, qui fait partie du collectif Mabuntu.
Bonjour, enchanté.
Bonjour, Antoine.
Enchanté.
Et là, il y a les ordinateurs qui sont reconditionnés sous Mabuntu.
C'est là, voilà, de ce côté-là.
C'est vous qui le faites?
Ah ben, je le fais, j'apprends à le faire déjà, c'est déjà pas mal.
Voilà, c'est parce que donc il y a voilà, Jaco est en formation.
Il y a des dons qui viennent d'arriver là.
Alors deux ordinateurs qui viennent d'arriver. Alors un qui marche un petit peu, mais un portable. Et puis un qui marche pas et qui est ancien. Et puis une imprimante aussi qui est en panne.
Alors ça, c'est donc impeccable parce que justement vous cherchez des portables en ce moment.
Voilà, justement on en cherche parce que beaucoup de gens en préfèrent le portable justement pour cette raison, la mobilité. Et donc ça permet bien sûr de se déplacer avec. C'est plus du tout pareil, bien sûr.
Et un portable, quand il est reconditionné, vous le vendez combien?
Ben, ça dépend. En fait, ça dépend de son âge, ça dépend de la mémoire qui est à l'intérieur, ça dépend de l'aspect général. Mais ça peut varier entre 60 et 120€. On en trouve des fois des pas chers, à 40, 60, parce qu'ils ont peu de mémoire. Mais par contre, juste pour regarder ses messages sur Internet et tout ça, ça suffit largement.
De toute manière, vous lui changez le système d'exploitation.
Ah oui, ici,
il passera en Ubuntu. Hein.
Voilà.
Tous les ordinateurs qui arrivent ici, vous les libérez. Quoi.
Voilà, voilà, voilà. C'est exactement le mot qu'il faut dire. Bah, celui-là, oui, on va le brancher pour voir.
Donc après, celui-ci, il faudra enlever le petit autocollant, là.
Oui, bon,
avec le petit drapeau du trop célèbre système d'exploitation propriétaire.
C'est vrai.
Merci à Jack et aux compagnons libristes d'Emmaüs. Oui, libristes qui utilisent et diffusent les logiciels et systèmes d'exploitation libres. Et vous pouvez vous équiper pour pas cher dans les boutiques parisiennes pour l'instant d'Emmaüs.
Merci à toutes et à tous. Comme un bruit qui court était réalisé haut la main par Jérôme Chélius, assisté de Karen D. avec à la technique aujourd'hui Julien Chabassu et Gaël Brauzek.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site de France Inter pour les références et les podcasts.
Juste après le flash, vous retrouverez Colin et Mauduit pour Si l'Amérique m'était comptée.
Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h pour une émission toujours à feu et à son.